La musique des sphères, une chronique de Christian Weissenbacher.
Pendant les 13 siècles qui séparent le grec Ptolémée du polonais Copernic, morts respectivement en 168 et en 1543, l'astronomie se développe surtout dans le monde islamique, où elle connaît son apogée au XIIe siècle, à la fois au Moyen-Orient et en Espagne. C'est à Cordoue, en effet, que sont traduits en latin les livres arabes qui permettront à l'astronomie européenne de prendre son essor à la fin du Moyen-Âge. Les hommes qui scrutaient le ciel à cette époque étaient à la fois astronomes et astrologues. Ils étudiaient les astres pour pouvoir en prédire les mouvements. Si on cherche un astronome de cet apogée islamique dans la musique classique, on le trouve dans l'astrologue du Coq d'Or de Rimsky-Korsakov. Un opéra composé sur un livret écrit par Bielski à partir du conte que Pouchkine avait lui-même tiré d'une traduction française des contes de l'Alhambra de Washington Irving. L'astrologue arabe dont Irving recueillit la légende lors de son séjour à Grenade en 1829 est Ibrahim Ebn Abu Aghib, qui vécut au temps du roi Aben Abouz. Copernic meurt en 1543, quelques mois après la parution du livre où il expose la thèse de l'héliocentrisme. Mais il faudra attendre plus d'un siècle, Newton naît en 1642, pour que cette thèse soit simplement tolérée par l'Inquisition. Dans l'intervalle, ses partisans n'eurent le choix qu'entre le déni et le bûcher. En 1600, Giordano choisit le bûcher, mais en 1633, Galilée préféra le déni. Ce choix cornélien inspira à Bertolt Brecht une vie de Galilée qui connut trois versions entre 1926 et 1956. En 30 ans, la découverte de la fission de l'atome, puis la guerre, puis le drame d'Hiroshima, et enfin le partage de l'Allemagne entre capitalisme et socialisme, amenèrent en effet l'auteur à voir ce conflit entre science et pouvoir sous des jours chaque fois différents. Si en 2005, la pièce de Brecht devint un opéra sous la plume de Michael Jarel, je préfère vous présenter un autre compositeur, le luthiste Vincenzo Galilei, qui est le père de l'astronome, ainsi qu'un musicien théoricien de la Camerata Fiorentina. Comme son fils, Vincenzo avait trouvé dans l'Antiquité de quoi corriger les vues et les pratiques de son époque. En musique, cela donna l'opéra, qui s'opposa au contrepoint de la Renaissance en adoptant le principe de la monodie accompagnée, qu'on croyait inhérente à la tragédie grecque.
Thank you.
Notre troisième astronome est Tycho Brahe, un contemporain presque exact de Giordano Bruno, qui opta pour une position médiane. D'accord, les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil, lui, continue à tourner autour de la Terre. Si je cite Tycho Brahe, c'est pourtant moins pour ses thèses scientifiques ou pour son catalogue d'étoiles et l'immense partie qu'en tirera son disciple Johannes Kepler que pour sa vie privée, qui est un vrai roman. Un nez perdu lors d'un duel est remplacé par un appendice en or, un observatoire et un château construits sur la petite île de Ven en face de Copenhague, une liaison avec la reine du Danemark suivie d'un repli sur Prague à la cour de Rodolphe II, une vessie explosée après une trop longue rétention pendant un banquet, et bien sûr une mort par empoisonnement. Il y a mieux. En 2004, Peter Andersen, un enseignant-chercheur de l'Université de Strasbourg, prouva qu'en 1600, c'est-à-dire à une époque où l'Angleterre et le Danemark étaient étroitement liés, comme le montre l'avis du compositeur John Dowland, Shakespeare fut chargé d'écrire Hamlet pour prévenir Tycho, alias Claudius, du sort que lui réservait Christian IV, alias Hamlet. Cette chronique est dédiée à l'astrophysicien Patrick Guillou, dont j'ai suivi avec émerveillement l'enseignement à l'Université populaire européenne pendant ces deux dernières années.